Bonjour à tous, c'est l'heure de votre traditionnelle émission La Bougeotte présentée par Christian Cailliol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors, l'hiver te manque tant au point de nous proposer aujourd'hui une vidéo du sud de la France sous la neige, avec en fond une musique du peuple amérindien, si je ne me trompe pas. Mais que se passe-t-il? Un flocon t'est tombé sur la tête?
Ah ben voilà, ben écoute, oui, je vous emmène dans une des plus belles régions de France. Et il se trouve qu'il y a une région méridionale, avec un climat bien protégé. Il se trouve qu'il a neigé, une neige extraordinaire qui nous est tombée un matin, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et donc le titre de l'émission « Ocre à la neige », c'est un titre qui me plaît beaucoup, qui fait penser à une pâtisserie, parce qu'on est franchement dans un délice, une région de délices, où cette neige extraordinaire a apporté dans le décor l'exotisme. Et la musique, et le VTT, et tout ça à travers les cailloux.
Tout y est, tout y est.
Tout y est, vous allez voir. Ouais, ouais, donc je vous amène, on n'a pas dit où c'était. Hein? C'est une des plus belles régions de France. Laissez-vous transporter dans le Luberon. Alors moi, j'ai tendance à dire Luberon, d'autant qu'en provençal, le E se prononce E. Pourtant, là-bas, les autochtones prononcent Luberon. Donc on va essayer de continuer, mais bon, ce n'est pas bien grave ça. Alors voyons. Qui n'a jamais entendu vanter ses mérites comme étant un lieu emblématique de la Provence, baigné de soleil, refuge d'artistes, de personnalités bien connues, en fait des people. Mais exactement, c'est où? Un petit massif séparé du Rhône par le Pays Avignonnais, entouré par les Alpilles et le Verdon, rien que ça. Donc, au nord, les monts du Vaucluse, au sud, la Durance, là aussi, des paysages, hein, vous voyez. Avec la diversité des paysages de plaines, de collines, de boris et de villages perchés où la lavande et le thym parfument les vignes, les vergers et où les ocres côtoient les murets de pierres sèches, la présence de cette neige improbable va apporter une touche inespérée et va rendre les décors somptueux, en particulier autour de Roussillon. Mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, cette région que l'on dit exceptionnelle? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Eh bien, en premier, les sites ocriers, aux couleurs somptueuses. C'est un massif sur 25 km où l'ocre est partout et colore le moindre vallon, rappelant l'Ouest américain. Bien avant d'être exploité industriellement, l'ocre a été utilisé au paléolithique comme pigment de peinture rupestre. Mais la nature avait fait son œuvre bien avant. Il y a 110 millions d'années, des sédiments contenant des oxydes de fer s'accumulent au fond d'une mer peu profonde. Puis, au retrait de cette mer, les oxydes de fer s'oxydent et se combinent à des argiles et à des sables. Les couleurs vont du jaune au violacé. Ainsi, au Colorado provençal à Rustrel, une ancienne carrière à ciel ouvert a façonné le paysage. Ou encore, le sentier des ocres à Roussillon. Ces sites ont été exploités artisanalement depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1880, date de l'arrivée du chemin de fer. De 1890 jusqu'en 1930, ce sera l'âge d'or d'une exploitation devenue industrielle. La crise de 1929 et l'arrivée de colorants synthétiques signeront le déclin inéluctable de l'activité. Le travail se pouvait se faire à ciel ouvert ou dans des galeries. L'ocre était ensuite séparée par lavage et décantation dans des bassins. Une fois séchée et tamisée, elle était commercialisée. En général, les ouvriers, c'était des agriculteurs qui faisaient le travail de l'ocre de façon complémentaire. Rien qu'à Rustrel, on comptait 22 carrières, occupant 84 ouvriers en 1925. Après la Seconde Guerre mondiale, les chantiers vont fermer, les uns après les autres, pour s'arrêter complètement en 1991. Au cours de balades, au bord de chemin, vous pourrez trouver des vestiges de cette époque. Des bassins de lavage, des canalisations, des pompes, des wagonnets. Mais il faut se dépêcher, la nature reprend ses droits. Il faut la faire découvrir tout en protégeant les espaces. Dans l'attente d'un classement comme grand site de France. Ça va venir. Pour vos achats et renseignements, adressez-vous à la Société des Ocres de France, créée en 1901, qui perpétue la fabrication des ocres et des produits dérivés comme les enduits, les plâtres, les peintures, et elle produit actuellement 800 tonnes par an. et sur le sentier des ocres, le comptoir des ocres, qui propose toutes les ocres pour les loisirs créatifs. Cette région, en plus des ocres, possède une originalité majeure différente, qui est un habitat ancestral, appelé les bories. Ori dans les Pyrénées, Ori en Corse, Cabane, Capitelle, Cadol, Caselle, Gariotte, Chapeau Pointu, tant de dénominations différentes pour ces abris temporaires de pierres sèches.
Maison de berger, quoi.
Exactement, abri de berger. Un lieu de stockage pour les outils, pour les produits agricoles et aussi, bien sûr, comme on vient de dire, moyen de se mettre à l'abri. Les formes variées sont en fonction des matériaux utilisés, mais aussi de la tradition ou de la fantaisie du bâtisseur. Elles peuvent être en L, en pyramide tronquée, surmontées d'une tourelle, circulaires, en pain de sucre, beaucoup de formes. D'une façon générale, la voûte est montée en encorbellement, c'est-à-dire que chaque dalle déborde de la précédente vers l'intérieur et elle est maintenue à l'extérieur par un contrepoids de pierre bien choisi. Le confort, très rudimentaire. Peu de fenêtres, quelques niches à l'intérieur, une cheminée. Ce ne sont pas des constructions anciennes, ni néolithiques comme on pourrait le croire, ni gauloises, ni romaines ou moyenâgeuses. Elles datent que du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe. Ici, tout près de Gordes, les paysans ont construit tout un hameau, doublant le village au moment de certains travaux. Dépourvu d'églises et de cimetières, signe d'un habitat saisonnier. Il aura fallu défricher de nouvelles terres pour donner naissance aux cultures de mûrier, amandier, olivier, quelques céréales, puis compléter les revenus par l'élevage d'un petit bétail, produire du miel, faire un jardin, cultiver des plantes aromatiques et médicinales, élever des vers à soie, tout ça pour échapper à la faim. Il fallait se battre. Les pierres sont extraites de terre à la baramine pour empierrer les chemins en calade, soutenir les murs des restanques, border les enclos, parfois sur des kilomètres. Les pierres sont bon marché et inépuisables. Voilà. Le village tombe à l'oubli pendant un siècle. En 1968, un poète écrivain, Pierre Viala, achète les ruines et se consacre à leur sauvetage. Voilà l'histoire des bories de Gordes. On trouvera un autre habitat traditionnel, des maisons troglodytiques cette fois, en particulier celle des Baumettes. Voilà un autre village bien discret. Il se caractérise par des cavités naturelles, baumes, transformées en abris, puis habitations troglodytiques, probablement creusées au néolithique, habitées encore de nos jours. En bordure de la Via Domitia, vous découvrirez plusieurs constructions incrustées dans la colline, dont une chapelle médiévale. Et puis, de vieux villages, comme Opède-le-Vieux. Un vieux village chargé d'histoire, d'escalade pentue, vous conduiront à la collégiale du Xe siècle, au sommet de la colline, avec un panorama à 360 degrés. Bon nombre de célébrités, dont Consuelo de Saint-Exupéry, la femme de Antoine de Saint-Exupéry, sont tombées amoureuses des rues fleuries, des ruines du château médiéval, qui était au comte de Toulouse, ou d'anciennes demeures du XVe et XVIe siècle. Moi aussi, je suis tombé amoureux de ce village.
Ne m'étonne pas.
Un autre village, Saint-Aturnin-les-Aptes. Deux moulins avant du XVIIe siècle. Un château, des remparts, de trois enceintes, qui sont des du XIIe, XIVe et XVIe siècle. Et puis, une calade montant au château, dominé par une porte médiévale magnifique que l'on voit sur les images de ma vidéo. Si vous avez la curiosité d'y aller, là aussi, du village, la vue est exceptionnelle. À faire, absolument. Alors là, allez-y. Et puis, à Saint-Pantaléon, alors là, ce sont d'étonnants sarcophages qui vont nous intéresser. Une chapelle étonnante, entourée de sarcophages creusés dans la roche. Au pied de la nef, cette nécropole rupestre du XIe et XIIe siècle comprend un ensemble de tombes adultes entourées de tombes d'enfants. C'est un sanctuaire à répit. Un sanctuaire à répit, c'est quoi? Selon la croyance moyenâgeuse, le répit pour les enfants morts-nés offrait un retour temporaire à la vie, le temps de les baptiser avant la mort définitive et leur permettant un accès au paradis au lieu de errer dans les limbes. Outre l'habitat typique, des curiosités naturelles ne manquent pas. Faisons une escapade dans les gorges du Régalon à Cheval Blanc. Une balade spectaculaire au fond d'un défilé. L'aventure familiale à bon marché. C'est pas compliqué. C'est tout droit, jusqu'à faire demi-tour. Mais on peut aussi emprunter, si on souhaite, la boucle de retour qui, elle, existe aussi. C'est un havre de fraîcheur en été, puisque vous suivez le lit d'un ruisseau qui, bien souvent, est à sec. Un canyon relativement large au début qui devient étroit et sombre avec un passage dans une grotte. Et là, vous devenez Indiana Jones. À éviter absolument par temps pluvieux pour les très jeunes enfants et les personnes âgées. Changeons d'endroit. Question source. Voilà maintenant que je vous amène à la première source de France. La seconde étant la résurgence de la Touvre en forêt de Braconne que nous avons évoquée dans la précédente émission. Nous voici donc à la fontaine de Vaucluse. C'est un site naturel très fréquenté. Dans le Vaucluse, c'est un des plus fréquentés. Pour éviter la foule, prévoyez une visite matinale de préférence. La vallée se termine par un cirque de 230 mètres de hauteur au pied duquel jaillit la fontaine. Dans ces terrains arides, cette exurgence est la plus puissante de France, avec un débit moyen de 23 mètres cubes seconde. En cru, elle peut passer à 90 mètres cubes seconde. Son écoulement est régulier tout l'été. Et durant les saisons d'absence de pluie, son écoulement reste énigmatique. Les légendes ne manquent pas, en particulier celle d'un immense trésor. Et pourtant, en 2001, il est découvert un important gisement de pièces antiques du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e de notre ère. Des centaines de pièces de bronze, mais aussi de belles pièces d'argent. Le chantier des fouilles nécessita le travail de 12 plongeurs pendant près de 3 semaines, au rythme de 2 plongées par jour pour chaque personne. Le trésor était bien là, important.
Tu vois, dans une légende, il y a toujours une part de vérité.
C'est vrai, tu as raison. Cette source a toujours été vénérée depuis les Gaulois, qui y plaçaient la résidence de certains de leurs dieux et les honoraient par le jet rituel de pièces. Idem pour les Romains, qui vouaient un culte aux divinités des sources. Pour tous les visiteurs, et pour les autres, la question est d'où vient cette eau? Quelle en est l'origine de cette exurgence qui donne naissance à la Sorgue? Le bassin versant couvre, vous allez voir, rien que ça, le mont Ventoux, les monts du Vaucluse, le plateau d'Albion et la montagne de Lure. Bassin versant qui se collecte tout à la fontaine Vaucluse. Une première exploration date de 1878. C'est une plongée par Nolo Ottonelli, plongeur marseillais en scaphandre lourd. Il est descendu à moins 23 mètres. Avec le scaphandre autonome de Jacques-Yves Cousteau, la profondeur atteinte est moins 46 en 1946, puis moins 74 en 1955. Au-delà, il est nécessaire d'utiliser des mélanges gazeux, oxygène et hélium. Claude Touloumjean, avec l'aide de la COMEX, descend à moins 153 mètres en 1981. C'est aussi la profondeur qui est atteinte. Rappelez-vous l'émission du mois précédent, sous le plateau d'Angoulême, dans le carse de la Rochefoucauld. On était à pareil, moins 150 mètres. Quelques années plus tard, en 1983, c'est Jochen Hasenmayer qui atteint 205 mètres, chapeau. Hein. Il n'est pas arrivé au fond. La coupe présente grosso modo une pente de 45 degrés jusqu'à la profondeur de moins 100. Ensuite, c'est un puits vertical. Seuls les robots atteindront le point bas, moins 315 mètres en 1985. N'oublions pas que lorsqu'un plongeur franchit un point bas pour continuer l'exploration, il doit ensuite faire la remontée d'autant de mètres qu'il a descendu, avec tous les paliers nécessaires à la décompression. Ensuite, il faut poursuivre l'exploration. C'est le but. Et bien là, passer un siphon pour essayer de continuer l'exploration derrière. Mais après, il faut faire le chemin contraire. Et là, ça devient compliqué parce que les plongées deviennent ce qu'on appelle des plongées successives. Et les temps de décompression s'allongent démesurément. En quelque sorte, il est réalisable. Voilà. Alors ainsi se termine donc notre périple dans le Luberon. Je vous rappelle ma vidéo qui accompagne cette émission, comme toujours, sur le site Radio Galaxy 31 et sur mon site perso, Rando VTT Vidéo. Ouais. Retrouvez toutes ces images ainsi que celles d'une rando VTT dont on n'a pas parlé.
Non, et l'aquarelle de Nadine aussi.
Et l'aquarelle de Nadine, elle a peint une aquarelle qui s'appelle Rustrel 84, le Colorado Provençal. Elle symbolise parfaitement ce pays typiquement provençal, au climat d'une douceur méditerranéenne. Ici, le dosage subtil d'ombre et de lumière, de couleurs chatoyantes, explique la notoriété de cette région qui lui donne un goût de sérénité et d'épanouissement. Alors, vous êtes convaincu? On échange? Personnellement, j'aimerais bien, oui, mais malgré ces nombreux atouts et mon désir de m'échapper le plus souvent possible, j'ai aussi besoin de revenir à mon port d'attache. Alors, pour moi, ce sera un « j'échange, oui, mais que pour quelques jours ». Et vous?
Oui.
Ben voilà, oui, on a parlé du VTT aussi. Oui, ben beaucoup de cailloux, beaucoup de murets, du VTT entre tout ça, et puis de la neige aussi. Le mois prochain, attention, plan hors sec. C'est le titre de l'émission. Et c'est quoi ça?
On sort les trilles?
C'est simple. Hors sec, c'est la Corse en tous sens. En attendant, bougez.
Mais bougez.
En France.
Ah, en Corse. Ah, c'est la France.
Ah oui,
aussi.
En Corse. C'est la France. Oui, oh là 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 là.
Oula.
Attention. On ne veut pas faire sauter la
radio.
La radio.
Merci, Christian.
Merci aussi. À bientôt, au mois prochain.
Au mois prochain.